J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Alors, il ne faut pas ouvrir la feuille jaune. Hein. Si on vous demande comme ça, un chrétien c'est quoi? Qu'est-ce que vous répondez? Un disciple de Christ, oui. Quelqu'un qui suit, pardon? Quelqu'un qui suit Jésus-Christ, oui. D'autres définitions? Quelqu'un qui est sous la grâce de Christ. Un enfant de Dieu. Vous voyez, il y a plusieurs définitions possibles. Eh bien, on va essayer d'en voir une que donne l'apôtre Paul dans l'épître aux Thessaloniciens. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à regarder la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 1er. Première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 9. Paul dit ceci à ses destinataires. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Je vous propose aujourd'hui de prendre cette définition. Je ne dis pas que les autres que vous m'avez données tout à l'heure sont fausses, hein, mais de suivre cette définition. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait comme les Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, les Thessaloniciens? Ils s'étaient convertis à Dieu en se détournant des idoles. C'est pour ça que j'avais mis une idole. Vous êtes peut-être demandé pourquoi j'avais mis ce dessin un peu bizarre. Ils se sont convertis à Dieu en se détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils Jésus, son Fils ressuscité, qui nous délivre de la colère à venir. Donc j'aimerais vous proposer cette définition. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se détourne, c'est quelqu'un qui sert et c'est quelqu'un qui attend. Alors vous me direz, c'est bien beau se détourner des idoles, mais c'est quoi les idoles ? À l'époque où Paul écrivait aux Thessaloniciens, les idoles, ça pouvait être la compréhension du monde qu'ils avaient, les forces qui gouvernent la planète, le vent, le feu, la mer, le tonnerre. Vous savez, les Grecs, ils avaient des dieux pour tout. Et ça nous fait presque un peu sourire à notre époque. On est au-dessus de ça, non? Mais est-ce qu'on fait mieux? Est-ce que nos dieux à nous, ils ne s'appellent pas CAC 40, argent, dette souveraine, politique, pouvoir, réchauffement climatique? Est-ce que ce ne sont pas des choses qui, pour nous, gouvernent la planète et où, à laquelle nous prêtons beaucoup d'attention? Ça peut être aussi une idole, un coup de pouce pour nos petites affaires. C'était ce qu'ils allaient chercher, les Grecs. Ils allaient prier telle ou telle divinité dans le but d'obtenir une bénédiction. Et est-ce que les idoles de notre époque, ça ne peut pas être le loto, Euromillion, ou plus modestement les allocations familiales? Ou un peu de piston pour être embauché quelque part? Est-ce que notre idole principale, ce n'est pas nous-mêmes? Notre santé? notre forme physique, notre réussite professionnelle, notre pouvoir d'achat, notre retraite, on en parle beaucoup, hein, notre liberté. Plus radicalement encore, notre idole, nos idoles, ce sont nos propres péchés, notre égoïsme, nos mensonges, notre soif de pouvoir, notre volonté de décider de tout par nous-mêmes, notre désir de nous passer de Dieu. Dans nos idoles, il y a nos péchés que nous devons constater et rejeter, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes, mais qui le deviennent par l'emprise qu'elles prennent sur nous. Le sport, les loisirs, la télévision. Se détourner de ses idoles, c'est trouver qu'elles n'apportent pas de solution à notre problème, à nos grandes questions, à nos problèmes à l'origine du mal, aux conséquences du mal. C'est de trouver qu'elles nous détournent aussi de la vraie solution qui est en Dieu. Jésus a dit, quand on lui demandait où se situait le mal finalement, hein, il a répondu, donc c'est en Matthieu 15, si vous voulez sortir votre arme du fourreau, ceci est une arme. Il faut toujours emmener son arme pour combattre. On lui disait, écoute, c'est quand même quelque chose d'incroyable, tu t'es pas lavé les mains avant de manger. Tu es dans le péché, dans la faute. Et voilà ce qui répond. Matthieu 15, verset 18. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, à vivre dans l'immoralité, à voler, à prononcer de faux témoignages, à dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. S'il avait repris la même idée qu'aujourd'hui, il aurait dit « voilà nos idoles, voilà la source de nos idoles ». Et l'épître de Jacques se pose aussi un peu la même question. Si vous voulez aller dans l'épître de Jacques au chapitre 4, d'où viennent les conflits ? Intéressant comme question. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous ? Jacques chapitre 4, verset 1. Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Qu'est-ce qu'il nous dit Jacques ? D'où vient le mal ? Ne cherchez pas, il vient de l'intérieur de vous-même. Le mal, ce n'est pas tel autre ou tel autre ou tel autre. Le mal, c'est d'abord en nous qu'il est. Et il précise, vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors, vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèle que vous êtes. Et là, on va retrouver l'idée de se détourner. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Alors, les Thessaloniciens, eux, ils avaient fait le chemin inverse. Ils avaient constaté que pour devenir ami de Dieu, il fallait renoncer, se détourner, prendre un autre chemin. C'est la repentance, prendre un autre chemin, c'est prendre une autre pente. On dit que quelqu'un, il est sur une mauvaise pente. Ben voilà, la repentance, c'est de se détourner de la mauvaise pente et prendre la bonne. Une fois qu'on a renoncé à ses idoles, le point suivant, c'était servir Dieu. Si vous avez les petites feuilles jaunes, là, vous avez le droit de les ouvrir. Vous verrez que ce qui a beaucoup intrigué Pierre-Yves lorsqu'il a voulu imprimer les feuilles, c'est que je lui avais passé le fichier en mettant « servir », point d'interrogation, « Dieu ». Il s'était demandé si je n'avais pas fait une faute de frappe. Parce que la chose qui m'étonne là-dedans, c'est le mot « servir ». Est-ce que Dieu a vraiment besoin qu'on le serve ? Dieu a-t-il besoin de serviteurs ? C'est ce que Paul dit à Athènes. C'est en acte 17, verset 25, il parle de Dieu et il dit « Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Dieu qui donne à tout le monde tout ce dont nous avons besoin pour vivre, il n'a pas besoin qu'on le serve. Mais il nous appelle quand même à le servir. Parce qu'être au service de quelqu'un, c'est connaître ses désirs, c'est les satisfaire, c'est reconnaître son autorité. Quand on a demandé à Jésus, mais comment est-ce qu'on peut servir Dieu ? On peut tourner la phrase autrement. Quel est le plus grand des commandements ? Ça revient au même. Qu'est-ce qu'il a dit ? Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Servir Dieu, c'est d'abord l'aimer, le respecter, lui obéir. Et puis Jésus a continué. Puis il y a un deuxième commandement, une deuxième chose qui fait plaisir à Dieu, qui lui est semblable, a-t-il dit, qui est aussi importante que la première. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Servir Dieu, c'est aimer Dieu, c'est aimer aussi tous ceux qui nous entourent. Aimer les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Servir Dieu, c'est vouloir plaire à son maître. Et le troisième point, donc se détourner de ce qui nous finalement, éloigne de Dieu, servir Dieu et aimer les hommes et les femmes qui nous entourent. Et le troisième point, attendre. Quand on est chrétien, on est patient, ou du moins, on doit le devenir. On doit apprendre à le devenir. La vie chrétienne est attente et espérance. On vit dans la génération du tout de suite. Je suis toujours étonné quand j'ai besoin d'un renseignement. Il y a quelques années, j'allais chercher dans un dictionnaire. Bon, maintenant, je m'approche, je rentre à la maison, je prends mon ordinateur et je regarde sur Internet. Mais si je suis avec mon fils, Raphaël, qui est là, ici présent, et qu'on marche dans les rues de Lyon, ben lui, il sort son téléphone portable, il dit « Attends, tu veux savoir ? Je vais te dire tout de suite. » Voilà. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une illustration. On est dans le tout de suite. Alors que Dieu nous demande de patienter, d'attendre. Notre salut est prêt. Tout est accompli, a dit Jésus. Et en même temps, il ne se voit pas. Il ne se montre pas encore vraiment. Je vous donne rendez-vous dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Là, ça vaut le coup de chercher parce que le texte est un peu long. Première épître de Pierre au chapitre 1er. Au verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Vous êtes sauvés, il vous tient en réserve, dit le texte, mais le salut, vous l'aurez vraiment que plus tard, lorsque Dieu vous le donnera. Je continue ma lecture. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Attendre Jésus, ça sert à éprouver la valeur de notre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Et cette phrase qui m'a toujours étonné, elle vous vaudra louange, honneur et gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On vit, nous, en disant, qui mérite la louange, l'honneur et la gloire? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et voilà un texte qui nous dit que notre conduite nous vaudra des louanges lorsque Jésus-Christ viendra. Mais, peut-être pas celle de tout le monde, celle de ceux dont la foi aura résisté et se sera affermie dans le creuset de l'épreuve. Ce texte donc nous rappelle que l'attente, elle est voulue par Dieu dans un but précis, nous perfectionner, nous faire grandir, affiner notre foi. Et il nous rappelle que nous n'attendons pas quelque chose, nous attendons quelqu'un, nous attendons Jésus. Et en attendant, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Nos amis de l'église de Villefranche-Bellini ont un petit journal, nous on a le nôtre qui est le lien fraternel. Le leur s'appelle, je trouve qu'il a un très beau titre, il s'appelle « Servir en l'attendant ». C'est joli comme titre, « Servir en l'attendant ». Et Jésus avait donné cette parabole en Matthieu 24, la parabole du serviteur à qui son maître confie une mission et le maître s'en va. Et il conclut sa parabole en disant « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. » C'est pourquoi notre attente doit être heureuse et en même temps efficace. Alors, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est le moment où on devient chrétien. Et comment on fait pour devenir chrétien? Eh bien, c'est le moment où on décide de se détourner. De se détourner des choses qui avaient de la valeur peut-être à nos yeux auparavant et de se rendre compte qu'elles n'ont pas de valeur. De se rendre compte qu'on ne peut pas se sauver tout seul, que Dieu ne peut pas nous approuver sur cette conduite-là. C'est le moment où on décide qu'à la place de ce qu'on servait avant, on va servir Dieu. Servir Dieu, c'est l'aimer. Et c'est le moment où on commence à attendre Jésus. C'est le moment où nous réalisons tout cela pour la première fois. C'est le moment où nous passons des ténèbres à la lumière. Le moment où d'ennemis de Dieu, nous devenons ses enfants. Le moment où de condamnés que nous étions, nous devenons graciés, pardonnés, libérés. C'est le moment où de morts que nous étions, nous obtenons la vie éternelle. Alors, la conversion, c'est bien, c'est le point de départ. Mais est-ce que ça suffit dans une vie chrétienne? Est-ce que c'est seulement cela que le Seigneur attend de nous? Je vais vous montrer un truc. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vole? Oui, et après? Elle est retombée, hein? Je ne l'ai peut-être pas lancée assez fort. Mais bon, si je la lance peut-être vers le haut. Pourquoi est-ce que ça retombe? Normalement, voilà ce qui devrait se passer. Normalement, après la conversion, on devrait progresser toujours vers ce que la Bible appelle la sanctification. Mais souvent, ce n'est pas comme ça que ça se danse, malheureusement. Et ça retombe. Notre vie avec le Seigneur est-elle caillou ? Imaginez que c'est un caillou. Je n'ai pas osé lancer une pierre sur le carrelage. Ou est-ce que c'est une fusée ? Est-ce qu'elle est simplement lancée une fois, puis après on ne s'en occupe plus ? Ou est-ce qu'elle est alimentée en permanence ? C'est ça la différence. Pourquoi une fusée continue à monter, elle ne s'arrête pas ? Elle ne s'arrête pas tant qu'elle a du carburant, tant qu'elle est alimentée. Alors que lui, pourtant il paraît costaud, hein, mais aussi loin qu'il va lancer sa pierre, de toute façon un jour, elle va retomber. Un jour, oui, assez vite, assez vite. C'est bien, il y en a un qui ne dort pas. Alors, il y a des chrétiens dont la vie avec le Seigneur retombe. Et ils retombent parce qu'ils ont oublié les trois verbes de départ. Ils ont oublié qu'il leur fallait, peut-être qu'il leur fallait se détourner de certaines choses. Alors ils y sont retournés. Des choses qui les avaient piégées dans leur vie et qui les repiègent maintenant parce qu'ils ont oublié de se tourner vers le Seigneur. Ou alors ils ont oublié de servir le Seigneur et ils se sont dit qu'ils pouvaient se servir d'abord eux-mêmes. Ou alors ils ont été impatients et ils ont voulu la facilité, la richesse, la gloire, le pouvoir, tout de suite, sans attendre. Sans attendre que le Seigneur nous donne toutes choses. Vous savez que vous allez tous là, un jour multimillionnaires. Vous allez tous posséder des grands domaines, puisque le Seigneur va tout nous donner quand il rentrera, quand il reviendra. Mais parfois on trouve le temps un peu long, et on veut tout de suite. Une chose qui est très très étonnante, c'est que si on regarde par exemple le nombre d'églises et l'affluence dans les églises en Europe de l'Est au temps de la fin du communisme, il y avait plus de monde dans les églises à cette époque-là où c'était interdit, où les gens étaient pourchassés, où les gens étaient persécutés, que ce qu'il y en a maintenant où les gens ont pleine liberté pour le faire. Ce que la persécution n'a pas réussi à faire, la richesse, la prospérité a réussi à le faire. Et souvent, hélas, il y a moins de chrétiens dans les pays où c'est facile de l'être, alors qu'il n'y a pas d'autre explication, sauf que notre cœur est piégé par ces richesses, par cette facilité. Où puiser l'énergie qui maintient la fusée en vol ? Paul dit aux Éphésiens, chapitre 5, si vous voulez prendre ce passage, Éphésiens 5, verset 14. Je vais le dire avec la bonne intonation. Réveille-toi, toi qui dors ! Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Il écrit à des chrétiens, hein? Réveille-toi, toi qui dors. Un petit peu plus loin dans le même passage, verset 18, il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». on se dit, bon, oui, moi je veux bien, c'est intéressant, mais comment on fait pour être rempli de l'Esprit? Ah, mais il nous dit, il nous explique, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns et les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voulez être rempli de l'Esprit? Eh bien, Paul nous donne une ordonnance. C'est comme un toubib qui vous donne une ordonnance. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des psaumes. C'est quoi des psaumes? La lecture de la parole de Dieu. Il vous faut des cantiques. C'est quoi les cantiques? Chanter la parole de Dieu. Il vous faut de la louange du Seigneur. Il vous faut l'action de grâce, c'est-à-dire dire merci. Et il vous faut la soumission mutuelle, la communion de l'Église, dans l'Église. Voilà où on trouve le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le trouve quand on va le chercher, quand on lui ouvre la porte pour qu'il rentre. On ouvre la porte au Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu, en chantant, en remerciant le Seigneur et en se soumettant les uns aux autres. Et une autre ordonnance, c'est un autre toubib, c'est celui de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Comment faire pour ne pas s'assoupir, pour ne pas retomber? Hébreux 12, verset 1. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, on pourrait dire notre vol. En particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. On y est retourné. On l'avait abandonné, on y est retourné. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Il peut arriver que la fusée retombe, même si elle a du carburant, si elle ne pointe pas vers le bon endroit. Que nous dit l'Épître aux Hébreux? Gardez les yeux fixés sur Jésus, et ainsi vous ne vous découragerez pas. Alors ça repart. Après un moment peut-être de découragement, ça repart. Vous avez peut-être entendu parler, c'est assez populaire dans certains milieux chrétiens, on parle de la conversion continue. Et d'après cette conception, on se convertit un peu tous les jours. J'avoue qu'elle ne me plaît pas bien, cette idée de la conversion continue. Parce que, d'abord, la parole de Dieu nous parle bien d'une conversion, et pas de 50 au long de sa vie. Bon. Elle nous parle de nouvelle naissance. On ne naît pas tous les matins. Et parce que cette conception, elle ignore toute idée de progrès. Ah, on monte en retombe. Mais en fait, globalement, on est toujours au même niveau. Alors que faire? Bon, bien sûr, il y aura quelques oscillations. Mais ce que je vous propose quand même, c'est de viser vers le haut. Au stade où j'en suis arrivé, que puis-je faire comme progrès pour mon Seigneur? Et je crois que c'est une prière qu'on doit se poser régulièrement. Au stade où j'en suis arrivé, que puis-je faire comme progrès pour le Seigneur? Il y aura des hauts et des bas. Nous ne sommes que des hommes et que des femmes. Et comme moyen d'action, je vous propose de vous nous poser régulièrement ces trois questions. Seigneur, aujourd'hui, là, maintenant, de quoi dois-je me détourner? Qu'est-ce que je dois abandonner? Seigneur, comment puis-je mieux te servir? Seigneur, aide-moi à m'attendre à toi, parce que j'en ai besoin, jusqu'à ton retour. Merci.
Merci Jean-Pierre pour. Merci. Ah oui, hein. Pour cette exhortation. Je vous propose d'avoir un petit moment maintenant où nous puissions justement concrètement réfléchir à ce que nous avons entendu et voir dans quelle mesure cela peut s'appliquer, parce que cela peut s'appliquer, mais de quelle manière cela s'applique à notre vie. Je vous invite à ce moment de réflexion, de prière silencieuse.